Everywhere you go, everyone you know, on the road, in the club, everyone you know does.
It's impossible to stop when you start to feel it. Can't you believe it? That the whole world needs it.
Française, français, belge, belge, cycliste, cycliste, mon président, mon chat, madame la mère de mes enfants, podi public, chéri, mon amour. Bon, oui, d'accord, j'ai un peu repompé cette intro, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui ne sauront même pas à qui j'emprunte ces mots. Alors, je ne prétendrai pas avoir la verve de Monsieur Desproges, alors je vais m'arrêter là. C'était juste pour saluer la nouvelle charge qui pèse sur les épaules de mon copain Proc, puisque depuis quelques jours, il a la lourde charge de succéder à notre ami Lavive à la présidence de l'association lyonnaise de promotion du vélo, La Ville à Vélo.
Bon, bah...
Et bien wesh, gros.
Bien wesh, et... Pourquoi je dis bien wesh, moi? Et à ce propos, ouais. J'avais une petite musique pour toi, un petit morceau, une dédicace. Vas-y, à te passer.
Je t'écoute.
Non, s'il te plaît, non. Qu'est-ce que c'est? Oh, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Où t'es allé pêcher un truc pareil? Mon dieu, quelle horreur.
Oui, tu peux le dire. Hein.
Oh mon dieu, pitié, arrête. Ah,
merci.
C'est pas du tout mon genre. Non mais c'est le genre de personne. Hein.
Pas du tout, c'est un morceau culte.
Mon dieu, ça vient d'où? C'est quoi?
Tu veux vraiment le savoir?
Oui.
Parce que tu risques de le réécouter hein, dans ce cas-là.
Oui, aïe, aïe. Vas-y.
Bah, c'est évidemment le morceau intitulé Président de Stone & Chardin.
Ouh, sa vie.
On t'aurait pu reconnaître la voix de Chardin qui chante particulièrement faux.
Bah, je me suis dit que ça devait être cette époque-là, mais j'avais.
Bon, bah, merci.
Et donc,
ouais.
le président chéri en question, a priori, c'était VGE. Hein.
Eh oui, mais il était considéré comme beau gosse et paraît-il qu'il y avait une partie de l'électorat qui. Ah oui, si, à l'époque, il était jeune, il
oui,
était
oui.
Fringant et tout. Bah. Partie d'électorat féminin qui n'y était pas insensible, paraît-il.
Alors, je vais pas rechanter la chanson.
Non.
Mais. Non, mais je ne ferai pas ça. Mais je tenais à citer les paroles.
Ouais.
Où on dit président, tu es. En 7 ans, on attend tout de toi, puisque ça fait référence au président de la République. Président, on est là, des millions, n'oublie pas, on a plus besoin d'amour que de soldats et de drapeaux, de soleil que d'uniformes sur le dos.
Ah.
C'est quand même sympa.
Ouais, c'est bien l'objectif.
Oui, oui,
hein.
Mais bon.
Après, c'est vrai que j'aime bien le avec ta clique de motocycliste, tu sors dans Paris. Là, bon, tout de suite, ça commence à plus trop
bon,
de correspondre.
En attendant, merci. Je dois vous avouer, je m'attendais, je me suis dit, ils vont me faire un coup de ce genre-là. Bon, mais ouais, on va essayer de faire avancer un peu les choses sur Lyon. J'ai déjà attaqué. On se fait 3 réunions.
On ne s'est pas introduit.
Non, oui. Et non, parce que j'ai fait une introduction particulière.
Excusez-moi.
Donc. Pour ce 10e épisode, quasiment épisode anniversaire du lancement du podcast.
Et ouais,
à quelques jours près.
10 jours près.
Et ben, nous sommes toujours là tous les trois. Donc il y a
Proc,
Mogor
et moi-même Grincheux. Ce mois-ci, donc nous allons avoir des rétropédalages et des news. Proculus. Tu vas nous faire un petit dossier?
J'ouvre un nouveau format qui va être une chronique sur les marques de vélo, les grandes firmes. Au début, je voulais juste faire un dossier, puis il s'avère que j'ai de quoi faire.
Plusieurs dossiers,
ouais, 4 ou 5, ça va être un nouveau truc fleuve. Après les On ne dit pas, je vais lancer voilà, l'origine des marques de vélo. Voilà. J'espère pouvoir vous faire rêver un petit peu en vous parlant de vos marques. Je l'ai déjà lancé sur le Twitter, enfin je vais en reparler, mais j'ai déjà lancé sur le Twitter. Si vous voulez que je parle de votre marque et que je ne l'ai pas encore abordée, vous pouvez me laisser un petit message, puis j'essaierai de la traiter.
Très bien. Et Mogor, de quoi nous parleras-tu?
Ça va être très court également pour ma part, puisque je vais parler de l'entretien des selles en cuir. Donc petit point, comment on dit, astuce, technique. Pourquoi tu ris?
Parce que, alors il faut que vous sachiez une chose, c'est que Mogor a un petit coup de folie, est allé chercher une moustache postiche et est en train de faire le podcast avec une moustache.
C'est faux, je l'ai laissé pousser tout le mois, ça m'a pris du temps.
Et là je suis obligé de le faire quand même, puisque tu vas nous parler des selles en cuir.
Cuir, moustache, cuir, moustache.
C'est donc un podcast à haute référence culturelle non, ce soir.
Ce soir, oulala.
C'est parce que c'est pourtant, le dixième. Non, mais tout le monde a une moustache.
On a rien picolé en plus.
Ouais, du thé, c'est terrible. Ouais.
C'est le thé, il doit y avoir un truc dedans.
Oh, cool.
Une bière sans gluten.
Oui. Oh, super. C'est toi qui l'as laissé ici.
Ah oui, c'est vrai.
Et donc, oui. Donc,
au dernier non-enregistrement.
Mais mes deux acolytes sont moustachus et même barbus, barbichetus.
Ouais.
Et du coup, je me sentais un peu seul, puisqu'en plus, autour de nous, il y a également des chats
qui ont
également des moustaches. Donc je me dis, zut, moi j'ai pas de moustache, donc j'ai sorti la moustache.
Et elle te va très bien.
N'est-ce pas?
En fait, on s'y fait à l'œil, ça va.
Au début, tu disais que ça ne m'allait pas bien, moi, je trouve.
Ah oui, ça
va parfaitement.
Ah, je te jure, ça te donnait un petit côté macheté, comme ça, mais là, maintenant, ça va mieux. Bon.
Donc, pire moustache ce soir.
Voilà. Très bien. Eh bien, nous allons commencer par les rétropédalages. Qu'il y a des rétropédalages, il n'y a que moi.
Il n'y a que toi.
Et bien donc, je vais vous faire un petit retour sur l'indemnité kilométrique vélo. Donc, suite à l'opération de test qui a été menée l'année dernière auprès de quelques centaines d'entreprises. C'est une centaine d'entreprises, non? Non, c'est pas grave. Plusieurs dizaines d'entreprises et plusieurs centaines d'employés. Il a été constaté un doublement de la part cycliste dans les lignes des entreprises. Donc bon, c'est pas des milliers, parce que de mémoire, il y avait référencé 200 cyclistes habitués qui étaient identifiés et ils sont passés à 400.
Alors, c'est quand même pas mal.
C'est pas mal. Il y a un petit bémol à dire là-dessus sur les chiffres. Ce qui a été vu, c'est que les 200 supplémentaires ne viennent pas de la voiture. C'est pas des automobilistes qui sont passés au vélo.
Principalement les transports en commun.
C'est principalement les transports en commun. Il y a peu d'automobilistes. C'est dommage. C'est dommage.
Après, c'est un engrenage.
Je pense.
N'est-ce pas, côté un peu masse critique, ce genre de choses. Plus il y a de cyclistes, plus on se dit, ah bah c'est possible, c'est simple, c'est faisable.
Il y aura un phénomène d'émulation, oui, je pense.
Et puis on peut toujours compter sur les grèves, les choses comme ça pour...
Sur Vélotaf, tout le monde le dit, hein. Les premiers qui se sont lancés, c'était suite aux grèves de 95.
Tout à fait. Ouais. C'est pas mon cas en particulier, parce qu'en 95, j'étais trop jeune, dire. Mais par contre, c'est vrai que je me suis mis à Vélotafer régulièrement et sérieusement, lors d'une grève, et je faisais à ce moment-là une heure aller, une heure retour de vélo dans Paris. Et ça m'a donné tellement la pêche, ça m'a tellement apporté que j'ai continué, même quand après je pouvais reprendre les transports.
Ok, et bien on va passer aux news.
Allez.
Proc ?
Oui ?
Tu as des news ?
Non.
Alors là, il y a une petite scène drôle, c'est que Grincheux a été superbe dans son geste. Il a fait tournoyer son doigt autour de la tête et on s'est demandé sur qui ça allait tomber.
Moi j'ai dû faire un peu les yeux d'un lapin dans les phares d'une bagnole. C'est de putain de merde.
C'est le cas de le dire, un lapin. Vu que ton avatar est un lapin.
Et oui, non, c'est.
Bon, alors on reprend. Mogor, tu as une news.
Mais oui. Comment le sais-tu ? J'ai entendu parler, et peut-être vous aussi, de l'airbag pour cyclistes.
C'est vieux ça.
Moi je trouve que c'est une news parce qu'on peut l'acheter maintenant.
Ah,
il s'agit d'un airbag en collier.
Ouais.
Ça ressemble à une Minerve, hein, soyons clairs, qu'on met autour du cou. Et l'idée c'est qu'en cas de choc, ça se gonfle pour protéger le...
La nuque.
La nuque.
La nuque et le... J'ai du mal à trouver mes mots ce soir. La colonne vertébrale, enfin le cervical.
D'accord.
Voilà.
Oui. Moi, je reste un peu dubitatif dans le sens où c'est décrit comme étant discret et élégant.
Ah, ça existe en noir, en fleuri ou avec un aspect un peu cuir.
Oui, t'as quand même une Minerve autour du cou.
Oui, c'est ça. Mais du coup, en hiver, vu que t'as souvent une écharpe ou un gros écharpe... Ouais. C'est pas si voyant que ça.
C'est pas si choquant, oui, mais bon, ouais.
Ça pèse combien, par contre? Je crois que c'est assez lourd.
Alors, attends, parce que je suis sur le site où je peux l'acheter, mais il n'y a pas vraiment... Je trouve pas vraiment d'infos. Alors déjà, ça coûte 300€, donc tout de suite...
Oui.
J'ai envie de dire, ce prix-là, je vais m'acheter un vélo, quoi.
Ben, ça fait les trois quarts j'étais en train de me dire, ça fait les trois quarts de mon extra cycle.
Si vous voulez rajouter un motif différent sur la coque externe, c'est 50€.
Il n'y a pas de petite économie.
Et je ne trouve pas le poids, alors excusez-moi, vais devoir faire une recherche sur un autre site, en fait.
Et est-ce que tu as des détails sur le fonctionnement? Qu'est-ce qui va déclencher le gonflement de l'airbag?
Ça, je crois que je le savais, je crois que c'est un...
C'est un accéléromètre
Je crois que c'est un accéléromètre, ouais. C'est si tu perds ta vitesse brusquement ou un truc comme ça, oui.
Alors, je suis en train de chercher sur le site, j'ai pas bien révisé mes
livres. C'était des freins trop violents.
Alors, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a un petit crochet à l'intérieur pour pendre mon... pour accrocher mon truc. Ah non, mais je vous ai dit n'importe quoi depuis le début. On recommence. Donc c'est autour du cou. Par contre, quand ça se gonfle, ça vous fait
oui,
un casque.
Oui, ça fait un casque. Ça, oui,
autour
casque.
De la tête. Donc ça protège effectivement bien la nuque et les cervicales, je disais
oui,
tout
en
à
plus,
l'heure.
Oui, en plus du casque, oui. C'est bien ce que j'avais compris.
Non, ça se gonfle en
forme de casque. Attends, je vais essayer de te le montrer.
Ça suit. Non, mais je le vois bien.
Okay.
C'est une très jolie blonde, d'ailleurs, qui le présente.
Elle a choisi avec un grand black. Hein,
ah, d'accord. Chacun son truc, hein, je veux dire.
Oui, chacun son truc, moi je vous force pas.
Enfin bon, puis de toute façon, une fois que t'as l'airbag gonflé au-dessus de la tête, jolie blonde, tu vois éventuellement jolie mais blonde beaucoup moins tout de suite,
certes.
Alors donc, il y a un capteur sur l'inclinaison. Donc, qui c'est qui parlait de gyroscope ou de...
Oui. Accéléromètre.
Accéléromètre.
C'est Grinchot qui en parlait, oui.
Donc, c'est cette idée, c'est qu'en fait... Des millions d'accidents ont été rejoués pour essayer de déterminer à partir de quel moment on considère qu'on est dans une situation d'accident.
D'accord.
Dans l'image qu'on montre, l'image qui montre pour illustrer ça, c'est une espèce de petit gif animé là. Il y a une voiture qui pousse un vélo par l'arrière et le vélo se soulève.
D'accord.
La roue avant se soulève et le cycliste tombe en arrière, en l'occurrence sur le capot de la voiture. Et donc du coup, c'est le fait de tomber en arrière, paf, le collier fait qu'il y a la coque... gonflable, type airbag qui se gonfle tout autour de sa tête comme un casque gonflable, et du coup en tombant je suppose que ça,
d'accord.
L'idée, c'est que ça protège le choc de la tête, quoi, comme si t'avais un coussin autour de la tête qui est, bah, comme un casque en réalité.
D'accord, donc le casque gonflable.
Et donc, pour programmer ces capteurs, ils ont rejoué des situations d'accident en essayant de varier les paramètres, un peu comme les crash tests avec les mannequins de voiture.
Ils avaient fait des crash tests vélo pour ça, oui.
Voilà.
J'ai vu des demises monter sur des bécanes.
Voilà, donc ils disent, basé sur ces data collectées, nous avons développé un algorithme pour distinguer l'accident du vélo normal. Freinage brusque avec des super freins.
Ou même de la chute minable, simplement due à un rail de métro.
Cela dit, une chute minable, c'est
le
pas celle qui font
servir.
Moins mal. Hein.
Oui, mais le casque va pas spécialement servir, tu vas tomber sur les mains.
Je préfère que mon casque se gonfle, mon airbag se gonfle même en cas de chute minable. Enfin, parce qu'il y a une
300 petite, balles quand même, ça fait mal. Hein.
Ouais, alors ça peut se recharger par micro USB. Voilà, bon, après, c'est tout, c'est waterproof. J'essaye de retrouver...
Ah, c'est réutilisable, c'est pas un truc... c'est pas un one-shot.
Non.
C'est que comme t'as de l'électronique embarquée, il faut que t'aies une batterie.
Oui.
À mon avis, c'est ça.
Ah putain, ça serait con quand même que ton casque ne marche pas parce que t'en rates de batterie.
Le truc intéressant,
non, mais
je pense...
Tu mets sur ta dynamo.
Ah oui, c'est une bonne idée.
Oui, pour ceux qui ont l'USB direct sur
les dynamos. Et tu te retrouves pendu par ton casque après.
Sympa. À ton bulite qui continue de rouler. Comme il est un peu lourd, ça t'étrangle ou ça t'arrache la tête.
Oh mon dieu.
S'il est chargé avec tes gamins, parfait. Parfait. Ou avec de la charge. Par contre,
c'est pas Halloween pourtant.
Par contre, dans le dispositif, il y a un système de boîte noire qui enregistre 10 secondes des mouvements, du coup, pour reconstituer les accidents, etc. Ça peut être intéressant.
D'accord.
Voilà. Et je trouve pas le poids.
Ok. Ok, et bien donc moi je vais vous parler du mode intermodal ultime. Un Néo-Zélandais a inventé un porte-vélo qui se fixe sous les ailes d'un avion de tourisme.
Normal.
En fait, c'est un avion-taxi qui va régulièrement...
Il est d'où, tu as dit ?
En Nouvelle-Zélande.
Ah d'accord, ça se comprend mieux.
Voilà, on est...
Mais est-ce qu'il y a un porte-avion qui se fixe sous ton porte-bagages ?
Sous ton vélo ? Non. Non, c'est un Néo-Zélandais qui faisait donc régulièrement de la dépose de vététistes en haut de sommet et qui se retrouvait très embêté parce que quand il fallait charger les mecs avec les vélos, il a 6 places dans son avion et quand tu mets tu peux pas mettre 6 passagers et les vélos, donc tu te retrouvais avec 2 ou 3 passagers en moins, donc moins d'optimisation du vol, etc. Et donc il a fabriqué des supports de vélo. Donc les roues, enfin les vélos sont attachés par les roues et ça épande la selle et le guidon en bas. Et il a fait homologuer ça auprès de la Civil Aviation Authority of New Zealand.
Ouais, parce que sinon, sinon il pouvait être interdit de vol, effectivement. Ouais.
Voilà, c'est au-delà du côté gadget, il fallait quand même qu'il puisse prouver que ce soit pas dangereux. Parce qu'il s'agit de ne pas perdre un vélo quand t'es à 1000 mètres d'altitude.
En fait, si quand t'as dit ça, j'ai commencé à me marrer, c'est parce que j'imaginais la tronche du gars qui voit son cadran carbone à 4000 balles s'écraser lamentablement par terre.
Oui, il y a deux choses. Il y a le côté de perdre le cadre et donc le prix du vélo.
Et le mec qui se le prend sur la figure.
Voilà, ouais. Le mec qui se le prend, la maison où ça tombe, etc. Mais donc, ouais. C'est une innovation que j'ai trouvée amusante.
Ben oui, effectivement.
C'est vrai.
Mogor, est-ce que tu as une autre news ? Non. On a été très, très court en news ce mois-ci. Alors, il m'en reste une. Donc, il y a une news qui est parue, une news lyonnaise qui est parue ces dernières semaines, annonçant qu'il y avait 214 nouvelles places de stationnement vélo sécurisées dans les parcs relais du Grand Lyon. Donc, bien que cette nouvelle devrait m'emplir de joie, car que toute nouvelle infrastructure à destination des cyclistes est bonne à prendre, je reste malgré tout dubitatif, car justement pour moi, les parcs relais, c'est la limite à partir de laquelle circuler à vélo est acceptable pour des gens qui viennent de loin. Et je comprends pas bien qu'on prenne son vélo pour le laisser et finir les kilomètres les plus faciles en transport en commun.
Oui.
Donc, je sais pas quel est votre avis sur les parkings sécurisés.
En fait, le parc relais en soi, c'est le parc où s'arrêtent les automobilistes pour prendre les transports en commun.
Voilà.
Mais il peut y avoir des gens qui vont, comme il y a des gens qui ont des vélos de gare, il y a des gens qui peuvent avoir des vélos de parc relais. Ils vont avoir un vieux tromblon, un vieux clou qu'ils vont laisser accrocher. Je pense pas que ce soit une très bonne idée, mais...
Sauf que de ce que j'en ai vu, les règles de stationnement dans le parc relais vélo est le même que pour les voitures.
C'est-à-dire que tu dois fournir un ticket utilisé pour sortir ?
Non, je crois qu'il doit y avoir des abonnements, mais par contre, tu ne dois pas, tu n'es pas censé laisser ton vélo la nuit.
Par contre, c'est sûr qu'il doit y avoir un abonnement.
Oui.
C'est marqué dessus, c'est réservé aux abonnés.
Tout à fait.
Donc, moi, j'ai jamais compris non plus bien le truc. Je me dis, bon, peut-être qu'il y en a qui acceptent de venir à Lyon
donc
à vélo.
Donc, ça peut être très logique, ouais.
Oui.
Mais qui ne souhaitent pas rouler en ville. Hein.
T'en as qui ont peur.
Excusez-moi, petit bruit de démarrage de mon ordi.
Ok, donc voilà, c'était ma dernière news.
Et alors, en fait, je suis en train de me percuter. Donc non, mais on va être franc. En fait, je suis en train de faire des signes à Grincheux parce que merci, j'en ai une et j'avais oublié. Et alors là, attention, c'est de la news tout frais du matin pêché. Mes camarades ne le savent même pas. C'est du scoop et je le tiens directement de la réunion des modes actifs du Grand Lyon. De mercredi. Donc on a eu réunion avec Gilles Vesco, l'adjoint au mode actif du Grand Lyon. Le trajet reliant le Gerland à Loire-sur-Rhône pour la Via Rhôna a été arrêté.
Youhou !
Voilà, donc
enfin la Via Rhôna pourra traverser Lyon.
Et oui, l'interruption la putain d'interruption qu'on avait au sud de Lyon va être comblée. Donc il y avait eu beaucoup de passages qui ont été examinés. Il y avait un passage sur l'île de la Chèvre où il y a un barrage. Et en fait on avait eu un refus pour une question de passage près d'une construction à risque technologique. Donc je crois qu'on appelle ça un PPRT. Voilà, donc un site, le trajet est passé à côté d'un site à risque technologique.
PPRT, site à risque technologique, il y a un problème dans les initiales, non ?
Non, c'est risque technologique, c'est plan quelque chose, RT, enfin je sais plus. J'ai plus les initiales en tête, je suis navré.
C'est quoi un site à risque technologique ? C'est le barrage
Ouais, c'est le barrage visiblement, les lignes de tension ou les choses comme ça.
Il y a quand même tout Faisin et toute la vallée de la chimie, risque technologique.
On n'a pas bien compris pourquoi. Enfin, dans tous les cas, c'était plus peut-être une excuse pour la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, pour refuser le passage. Voilà. On passait sur le barrage et ils ne voulaient pas. Donc, il y a eu plein de tests qui ont été faits et au final, donc on va passer rive droite, on va un peu zigzaguer. Pendant un premier temps, on va effectivement prendre la piste bidirectionnelle moche qui passe à côté du périph, et oui, tu la vois celle-là ?
La piste bidirectionnelle
celle
moche.
Celle qui passe devant Rodia.
Je sais pas, j'ai déjà pris des trucs bizarres et où tu te demandes.
Je vous y amènerai un jour.
C'est des promesses, toujours des promesses.
Mais tu nous vends du rêve là. Hein.
Bon, enfin, mais une fois qu'on a passé un petit peu ce point noir, on va avoir des choses pas mal. Dans tous les cas, on va pouvoir allier Vienne sur un site propre et ça va être bien.
Ça c'est cool.
Voilà.
Et surtout, puisque c'est une route cycliste qui est censée être fléchée.
Oui, bien sûr. Alors ça, on a insisté, c'est Frédéric Rollet de PSR qui a insisté sur le balisage.
PSR, Pignon-sur-Rue.
Pignon-sur-Rue pour les non-lyonnais.
Oui, donc, parce que dans mon jargon professionnel, ça veut dire autre chose.
D'accord. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'il va être temps de passer au dossier.
Mm-hmm. Ouh là là.
Bicycle. Proculus.
Eh ben, allez, c'est parti. Alors, à l'origine, je me suis dit, mais on a eu des vélos. Plein de vélos de marques différentes qui viennent de droite et de gauche. Et puis, je croyais que Giant était une marque américaine. Et puis là, il y a Grinchet qui m'a fait « Ah non, elle est taïwanaise
». Si ça peut te rassurer, moi aussi, je croyais que c'était américain avant.
Bah oui. Et puis, je me suis dit « Ah tiens, mon surly est anglais ». Et puis là, on m'a dit « Ah non, pas du tout ». Donc du coup, eh bien, j'ai décidé de faire un dossier sur les marques de vélos. Et puis de là, bah, pourquoi pas s'intéresser à savoir quand est-ce qu'elles sont nées, comment elles ont évolué, etc. Donc, les marques les plus connues, bah, quel âge ont-elles ? D'où viennent-elles ? Et toutes ces questions, eh ben, je me les suis posées, je me suis mis au travail, et puis ben, j'ai parcouru les sites des constructeurs, les pages Wikipédia, et en fait, il y a tout un monde qui s'est ouvert à moi.
Waouh !
Made in Taiwan, se plaignait le papy campé par Didier Bourdon dans un sketch des Inconnus. Eh ben, on ne croit pas si bien dire. On se doute tous que les vélos sont fabriqués par de besogneux petits asiatiques. On en a un peu honte, mais bon, c'est une chose de le supposer en regardant ailleurs. Et c'est une autre de regarder attentivement, honnêtement. On peut être dans un monde absolument surréaliste, en parlant de délocalisation massive, de marché d'Europe de l'Est, les achats de licences. En fait, il y a des vélos qui sont fabriqués sous une marque, mais qui en fait sont fabriqués par une autre marque qui a acheté la licence. On va trouver des enseignes réduites à de simples zombies, des espèces de reliques défunts d'une autre époque, animées par des lugubres groupes d'actionnaires qui leur ont glissé une main dans le cul pour s'en servir de marionnettes comme des nécromants sordides. et puis de... Ouais, non, vraiment, hein, tu vas voir... Si vous êtes gentil, je vais parler d'abord de nos marques de vélo à nous, et si c'est assez rapide, j'attaquerai sur le groupe Cycle Europe, sinon je le ferai la prochaine fois et vous verrez un petit peu ce que ça donne. Donc, on va commencer par les marques. Alors, nos marques à nous trois. J'ai noté Motobécane. Ça, vous
oui,
en avez tous les deux.
Il y en a.
Voilà.
J'en ai deux.
Tu en as deux. Grinch en a un. Le Yuba, c'est ton cargo, Mogor.
Tout à fait.
Larry versus Harry, c'est le fabricant du Bullitt.
Tout à fait.
Ton cargo, Grincheux. Pour ma part, j'ai un Giant. Et toi aussi, tu as un Giant, je crois, Mogor.
C'est exact.
C'est exact.
Voilà. Je crois aussi que un petit garçon de votre connaissance a une Dresienne Giant.
Tout à fait.
Voilà.
Je ne vois pas de qui vous parlez.
J'ai noté Surly pour ma nouvelle machine. Petite courtoisie envers l'une de nos plus grandes fans, Aude, qui m'a montré son triporteur. Je pense que c'est un Backfits ou un Christiana. Je vais traiter Backfits ce soir.
Je me demande si c'est pas un Christiana qu'elle a. Mais
Christiana sera pour plus tard, alors. Tant pis.
Elle sera obligée d'écouter l'épisode suivant.
Exactement.
Je crois qu'on n'aura pas trop de mal à la convaincre d'écouter.
Oui, effectivement. Et puis aussi Extra Cycle, puisque c'est ce que j'envisage de greffer sur le Giant. Alors, dans toutes ces marques...
Il n'y a pas de Mercier ?
Oh merde, t'as un Mercier ?
Tu dis ça parce qu'on a été à Saint-Etienne récemment et qu'on a vu
t'as un
les marques stéphanoises ?
Bah, et mon Raoul, c'est quoi ?
Oh merde, je croyais que c'était un Peugeot.
Bah, c'est pas un pitbull ? C'est Raoul, mon pitbull, qui l'a trouvé.
Non, non, c'est Mercier.
Ok, bon, bah alors, non, j'ai loupé. Ah, si, avec Cycle Europe, je pourrais te le traiter, merci.
Ouf,
sorry. Donc, alors, de toutes ces marques, à votre avis, quelle est la plus ancienne ?
Alors, entre...
Attends, redis-nous. Bah...
Motobécane, Yuba, Larry versus Harry, Giant, Surly, Backfits ou Extra Cycle.
J'aurais dit Backfits ou Motobécane.
Motobécane.
Eh ben, vous avez raison. En fait, Backfits... Bah, je vais peut-être commencer par Backfits. Backfits, en fait, c'est un terme générique. Ça veut dire vélo-boîte. Et en fait, je n'ai pas réussi à trouver qui a commencé à fabriquer les Backfits... Quelle firme l'a fabriqué ? Aujourd'hui, c'est une firme qui s'appelle Backfits.nl. Netherlands, mais c'est tout. Il n'y a pas d'année de marque. Quand vous regardez les
sites... Je crois que c'était Backfits Web.
Ouais, enfin je sais.
Ouais. Bon, alors, petite aparté.
Ouais.
Si vous envisagez d'acheter un cargo et que vous dites tiens, je trouve une.
Web,
une
c'est les Chinois.
Voilà, c'est les copies chinoises.
D'accord.
Donc, Backfits Web, c'est des copies chinoises, après qui réapparaissent sous différents noms et qui font de piètres copies. Alors, certes, très abordables, mais vous en avez pour ce que vous avez payé. Donc, si vous voulez vous acheter un biporteur ou un triporteur, n'allez pas dépenser 500€ dans une merde comme ça.
Oh.
Mettez votre argent de côté, économisez.
Si vous voulez juste tester vrai... le concept, non, non, c'est un peu cher.
Non, vous
c'est dangereux.
C'est même pas tant que c'est dangereux que vous allez vous en dégoûter.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas la qualité.
Parce qu'il n'y a pas la qualité, parce que vous allez avoir des pièces qui vont tomber en panne, qui ne vont pas être réparables parce que ce n'est pas des trucs standards.
À vrai dire, si vous êtes en France, faites l'effort, si vous voulez acheter un cargo, d'aller à Paris. Dernier week-end de juin au PCBM, vous pourrez en essayer sur place.
Au Paris Cargo Bike Meeting, c'est
oui,
une très bonne idée.
Au Paris
Tout à
Cargo
fait,
c'est,
si vous avez la possibilité d'être à Paris ce dimanche-là, c'est la meilleure chose à faire. Mais revenons à nos moutons.
Alors donc, le Backfit, donc, c'est un vélo qui est tellement classique, tellement ancien, que je n'ai pas trouvé de date de création et que je n'ai pas trouvé de firme qui a créé la première le Backfit. Aujourd'hui, vous le trouvez distribué par backfits.nl et donc c'est un vélo qui, à l'origine, vient des Pays-Bas. Donc les Pays-Bas, la Hollande, les Netherlands, voilà. Donc je peux pas vous donner de date, mais je pense qu'il est très ancien. Si on cherche une date sûre, effectivement, la marque la plus ancienne de tous nos vélos, c'est Moto Bécane, Moto Confort, qui est de la même marque, et qui par la suite s'est appelée MBK. Alors, c'est une marque française, la production était en France, a priori elle a été en partie relocalisée à Saint-Quentin dans l'Aisne. Est-ce que vous avez une idée de l'année de la création de cette firme ?
De la firme Moto Bécane ?
Ouais.
Après-guerre ? Après la Seconde Guerre mondiale, 1945
Non, je dirais avant.
Ouais. 45.
Avant, je dirais dans
allez,
fin,
1920.
Fin des années 30.
1920.
Fin des années 20, je veux dire. Fin des années 20.
Vous êtes dans
ces eaux-là. Moi, je dis 1920.
1924.
C'est le juste prix. La juste date.
1924. Sachant que, par contre, je me suis donc bien sûr intéressé au groupe Absorber, parce que là, on en parle très très vite quand on cherche les firmes de vélo. C'est une firme qui appartient à Yamaha depuis 1986.
Ah
et
oui.
depuis quelques années, je dirais depuis 2005 ou 2006, la firme a arrêté son activité cycle non motorisé et ne fabrique plus que des scooters, qui sont en fait donc des scooters oui. Yamaha concrètement. Voilà. Sinon oui, donc la production, les derniers cycles étaient indiqués comme relocalisés à Saint-Quentin dans l'Aisne, mais ils ne nous parlaient absolument pas de soudure de cadre, donc je suppose que les cadres étaient continués à être soudés à Taïwan et étaient peints et badgés en France uniquement.
Assemblés.
Exactement, comme toujours. Et vous allez voir que cette nuance, je vais souvent l'employer.
Ah ben là, le assemblé en France...
Assemblé en France veut tout
moi
dire.
Moi qui viens de passer une semaine dans un atelier à travailler sur des vieux vélos de diverses origines... Combien j'en ai vu avec l'étiquette assemblé en France ou sur des Raleigh ou tout comme ça en Angleterre.
On ne parle pas de Raleigh, j'en suis malade.
C'est le programme ce soir, Raleigh ? Non.
Non, c'est pas ce soir, mais je vous en parlerai.
Okay.
Alors, je vais passer ensuite. On va passer à la date suivante. À votre avis, quelle est la marque la plus ancienne là dans ce classement ?
Quoi ?
Après Moto Bécane.
Ah.
Donc les marques.
Il reste quoi ? Giant.
Giant,
Surly, Yuba, Larry versus Harry, Surly, Xtra Cycle.
La suivante, ça va être pour moi, ça va être Giant.
C'est Giant. Giant oui. a commencé à fabriquer des cadres en 1972 et a commencé à fabriquer des vélos en son nom propre et à les commercialiser en 1986.
Mais avant c'était un fondeur d'aluminium, il me
c'était,
semble.
C'était un soudeur de cadre.
Non, mais avant de faire du cadre, il me semble que déjà il était déjà fondeur
Peut-être.
D'aluminium.
Alors et ça je l'ai pas trouvé.
Mais je sais plus. Alors j'ai pas fait attention à quel numéro c'était, mais un numéro récent de l'acheteur cycliste a fait tout un dossier justement sur Giant.
Oh putain, on l'a perdu. Le mec il commence à dire l'acheteur cycliste. On l'a perdu, mes pauvres amis. Bon.
Attends, il t'a pas encore dit tout le reste.
Oulala, j'ai peur.
C'est plus grave que
on
ça.
On verra ça en off, je crois.
Oui.
Donc, du coup, Giant, bah, écoutez, il n'y a pas de surprise, c'est une marque taïwanaise, hein, elle l'a toujours clairement clamé. Et donc, les Giant, les cadres sont soudés à Taïwan. On trouve également une petite partie de la production en Chine continentale. mais il y a toute une partie des vélos destinés au marché européen qui est assemblée aux Pays-Bas. Et ça, c'est assez étonnant pour le signaler. Voilà, donc Backfits, Motobacon et Giant sont les plus anciens. Qui vient ensuite ?
Mais il reste quoi, là ?
Xtra Cycle, Surly,
et Yuba.
Larry versus Harry et Yuba.
Moi, je dis Larry versus Harry parce qu'ils ont toujours de l'avance.
Eh ben non.
Non, c'est une marque récente.
Oh là là, on peut jamais... on peut même pas jouer, vous dites tout de suite que j'ai perdu.
Moi, j'ai Yuba.
Eh ben non. C'est Surly quasiment en même temps qu'Xtra Cycle. 98.
Ouais, donc les, c'est des marques
c'est effectivement très récentes par rapport
à l'histoire de Motobacon, par exemple.
Voilà.
Oui, et du coup, peut-être que c'est plus difficile de les différencier et de les discriminer.
Oui, oui, je vous taquine.
Vu leur âge. Leur...
Surly est implanté à Bloomington, dans le Minnesota, dans les USA. Vous m'étonnez qu'ils fabriquent des FAT. Le Minnesota, c'est un pays qu'on rapproche souvent de la Norvège, parce que, la population est issue massivement d'immigrés norvégiens. Et puis donc, il y fait très très froid, donc vous m'étonnez qu'ils ont fabriqué des FAT.
C'est le pays de Yehuda Moon ?
Non, il est de l'Iowa, il me semble, Yehuda Moon. Mais ça pourrait bien, le Minnesota, ouais.
C'est peut-être à la même latitude.
Ça doit pas être très très loin, oui.
Oui, latitude.
Et donc, j'ai eu un petit espoir, je me suis dit, ah, Surly, peut-être que les cadres sont encore soudés aux États-Unis. Non, les cadres sont soudés à Taïwan.
Voilà. Tu espérais avoir un vélo plus éthique que nous.
Et oui, et pas du tout. Donc non, c'est un cadre acier.
Tu sais, je crois que le côté éthique, je sais pas, mais en tout cas écologique. Déjà, si t'as un vélo d'occasion, c'est un peu plus écolo, tu vois.
Certes. Bah, ça tombe bien qu'il est d'occasion.
Mais je le sais, c'est pour ça que je dis ça.
Donc, soudé à Taïwan, par contre, entièrement assemblé à Bloomington. Voilà. Donc, je vous disais que c'était à égalité avec Xtra Cycle. Et là... Donc c'est fabriqué aux USA, hein, toujours. Alors, est-ce que c'est en Californie ? Est-ce que c'est à Portland ? Je n'ai pas trouvé l'information, mais j'ai trouvé une information qui me disait que Liz Canning, dont je vous ai parlé, qui fait un documentaire sur le cargo, va parler plus avant d'Xtra Cycle dans son documentaire.
Et là, tu frétilles.
Et là, je frétille. J'attends que ce documentaire sorte pour pouvoir le regarder et pour qu'on me dise d'où vient Xtra Cycle. Je parierai Californie parce qu'on retrouve beaucoup de marques fabriquées en Californie.
Oui. Donc, s'il y a déjà une industrie, excuse-moi. Oui. S'il y a déjà effectivement une industrie, donc il y a les matériaux sur place qui sont déjà acheminés, il y a des savoir-faire, des usines.
Tout à fait.
On peut embaucher des gens qui ont déjà bossé dans l'usine d'à côté.
Voilà. C'est ça. Je pense qu'il y a tout un secteur, ça doit être ça. Alors, la question.
J'avais regardé justement une vidéo du fondateur d'Xtra Cycle et je recherche son nom et je ne retrouve pas son nom. Ross Evans, qui justement retraçait toute l'histoire d'Xtra Cycle et je me souviens pas du tout où est-ce qu'il a lancé ça.
Il l'a peut-être pas dit. Ah non, si tu parles du premier prototype qu'il a créé, il l'a créé à l'université de Stanford.
D'accord.
Oui. Après, c'est où est-ce qu'il a implanté son usine.
Oui, je sais pas si c'était... Mais bon, il faudrait retrouver la vidéo qui a quelques jours, quelques semaines, donc de début 2015, pour si vous nous écoutez beaucoup plus tard.
Oui, pour l'arrêt de la production du...
Où il parle de l'arrêt de la production du Free Radical et du lancement du...
Megarack.
Du Megarack.
Burke.
Non, je ne suis pas si Burke que ça. Faudra voir ce que ça donnera réellement.
Bah ouais, je pense que ça va...
Une fois que t'as les sacoches par-dessus...
Je dis Burke parce que ça me semble très cubique quand même.
Ouais, ça me semble pas si cubique que ça au final.
Bon, on s'y fait à l'œil. Au début, ça me révulsait. Maintenant, puis, ça va. L'œil s'habitue.
Et puis, cubique ou culique ?
Cubique.
Ah, je croyais culique comme les culs ultra légers.
Ah non, je trouve ça très, très carré.
C'est pas très culique, non.
Non, c'est pas culique, non.
Mais bon, c'est une fois que t'as les sacoches par-dessus, tu ne verras plus le côté cubique. Hein.
On verra ça, effectivement. Enfin bon, la question, c'est la question du... La question qui se pose, c'est de savoir si l'entreprise qui se veut progressiste, qui a ouvert sur du développement alternatif, parce que le projet est né l'Xtra Cycle, la rallonge en elle-même, le Free Radical, est né d'un projet humanitaire au Nicaragua. Donc la question est-ce qu'ils le fabriquent chez eux ? Je suis pas sûr, parce qu'ils bossent avec Surly. C'est avec Surly qu'ils ont créé leur premier vrai vélo, parce que Xtra Cycle, c'est une firme qui à la base fournit une rallonge de vélo pour faire un cargo. Comme
et,
ils ont bossé
sur Sorli. Sorli a fait le Big Dummy qui reprend exactement les gabarits de.
C'est un vélo avec un free radical soudé derrière au lieu d'être simplement assemblé. Et Sorli, eh bien, fait souder à Taïwan, donc je pense que le free radical il est soudé à Taïwan. Mais bon, on peut pas trop leur reprocher. Hein, je veux dire, tout le monde fait ça. Ça les rendrait pas compétitifs. Alors, la marque qui arrive ensuite, eh bien, je pense que c'est Yuba.
Yuba.
Hop, hop. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche avec Larry versus Harry. Yuba, c'est une marque qui a été créée en 2006, qui a ouvert aux États-Unis, qui est californienne, mais le fondateur s'appelle Monsieur Benjamin Sarrazin. C'est un Français qui a fondé Yuba aux États-Unis, mais c'est un Français. Et en l'occurrence, il est kayakiste.
Voilà. En l'occurrence, quoi ?
Et en l'occurrence, il est kayakiste aussi, c'est un détail que j'ai relevé. Vu que
moi-même kayakiste.
Voilà, il est dans le kayak. Et comme il descendait la rivière Yuba, c'est ce qui lui a servi à donner le nom d'accord. de la firme.
D'accord.
Voilà. Et lui aussi, comme pour Extra Cycle, il a voulu ouvrir sa boîte dans une optique de développement raisonné. Il a beaucoup visité les pays d'Amérique du Sud. Il a voulu créer un utilitaire justement pour ses... Pour les pays en voie de développement, et c'est là qu'il a développé le Mundo. Donc, est-ce qu'il délocalise les fabrications dans les pays où c'est acheté ? Est-ce qu'il essaie de faire travailler du local ? Je sais pas. Je sais honnêtement pas. La question reste posée. J'ai pas trouvé.
Oui, des fois, ils voilà. sont pas toujours transparents, parce que c'est le mot à la mode. Mm-hmm. Sur tout ce qu'ils font, mais bon.
Non, j'ai trouvé certaines marques qui sont over transparentes. Alors là, par contre, ils ont oui. carrément assumé, et d'autres qui effectivement disent trop rien.
D'accord.
Donc, eh bien, on a parlé de Motobécane, on a parlé de Yuba, on a parlé de Giant, de Surly, de Backfits, d'Extra Cycle. Il nous reste Larry versus Harry. Donc, bah, c'est le petit dernier qui a dû sortir fin 2000, donc je dirais 2008-2009.
Oui, j'allais dire oui, autour de 2008. C'est ça. Mais je suis sur le site et je ne trouve pas d'infos précises.
Ah bah, il a déjà fait l'enquête pour toi, peut-être qu'il va t'en dire plus, Proc.
Ben en fait non, j'ai juste noté fin 2000. Ce qui me fait dire 2008, c'est que c'est l'année à laquelle 1984, qui est le pseudonyme du premier importateur de Jérôme 1984, c'est l'année où Jérôme a commencé à en proposer. Donc je pense que ça doit être dans ces eaux-là. Alors bon, bah, le Bullitt, on le connaît tous, hein, c'est un porteur type John Paul spécial, ouais. Mais en
Long John.
J'ai dit
John Paul Special.
Pardon.
Long John.
John Paul Special, c'est une marque de clope.
C'est John Player Special, mais bon. Oui. Ouais.
Mais bref. Donc,
parce que justement, Larry versus Harry, en tout cas sur les anciennes couleurs de cadre, mettait des peintures et des noms avec des jeux de mots, des clins d'œil. Et il y a, mais pour éviter d'avoir des procès derrière, détourner un petit peu. Donc, typiquement, moi j'ai la peinture qui est John Player Special, mais avec un Z à spécial pour ne
spécial.
Pas. Donc en clin d'œil. Au Formule 1 Lotus des années 70 ou 80, et pareil dans une livrée noire avec les noirs et or, comme étaient les Lotus, les Formule 1 Lotus John Player Special.
Special.
D'accord, ok.
Special.
Et là,
le Z est où en fait ?
Spécial. Spécial.
Ah, excusez-moi, depuis tout à l'heure je cherche.
Et donc, bah, on le connaît tous, donc c'est ce fameux porteur avant type donc Long John, mais en aluminium, le dernier.
Long
Et
John
là...
étant le nom des caleçons longs sous vêtements masculins, c'est très drôle.
Ah ouais ?
Oui.
Et continue. Et là, en fait, bah, la fabrication des cadres et ateliers... Eh ben, on le sait, c'est en Asie. Hein.
C'est Taïwan. Ouais,
c'est Taïwan, hein. Voilà. Hans nous l'a jamais caché. Hein, ça,
non,
c'est...
Ça,
il le fait souder là-bas, hein, nous l'a toujours
non,
dit.
Non, mais de toute façon, il faut voir qu'aujourd'hui, Giant produit, je crois, 80%. Giant produit actuellement 80% des cadres de vélo.
Pas 80%, parce qu'il y a d'autres fabricants. Par contre, c'est tout à ça.
Mais plus de 50% des cadres de vélo sont des Giant.
Je te parlerai.
Sont fabriqués par Giant.
Je te parlerai après. Mais je t'en parlerai après. Parce que Specialized fait tout chez eux. Mais
oui. Oui, mais t'as quelques marques, mais c'est relativement peu. Et par rapport à toutes les marques qui sont. Enfin, toutes les sous-marques qu'on va trouver partout. Et qui font beaucoup de volume pour tout ce qui est supermarché et autres.
La sous-marque sera la thématique d'un autre dossier, ne t'inquiète pas. Donc voilà, par contre, tout le montage est fait bien évidemment à Copenhague.
Oui.
Ça, il n'y a pas de problème. Hein. C'est tout fait enfin, de toute façon,
80, je pense que 80% des bullets sont vendus en kit cadre. Donc, il n'y a que le cadre vendu.
Voilà.
Cela dit, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, ou peut-être parce qu'il y a peu de bullets par rapport à d'autres marques, mais que le PDG est quand même assez accessible. Il répond aux messages.
Tout à fait, il est très accessible. Il répond lui-même aux messages. Oui. Moi, ça m'est arrivé de lui poser des questions.
Wow.
Sur des, j'avais des questions techniques ou quand j'ai fait mon excursion au Mont Ventoux, je lui ai proposé, je lui ai envoyé directement un mail et il m'a très gentiment répondu. Et puis bon, on l'a rencontré au Paris Cargo Bike Meeting et c'est un mec qui est très 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 sympa.
En plus, d'ailleurs, je crois que s'il a pas pu venir faire le Ventoux avec toi, c'est uniquement parce qu'il a un empêchement.
Tout à fait. Il était sur un salon. C'est pas qu'il il regrettait lui-même de ne pas pouvoir être de la partie parce que ce genre de conneries l'amusait beaucoup.
Disons que c'est un type qui est engagé. C'est
voilà,
c'est vraiment un cycliste. Il aime ça, comme tu dis. Il aime rouler, il est engagé. Et en plus, vu qu'il n'y a que 50 bullets dans le monde, bon, bah, du coup, il peut s'adresser à tous ses clients.
Il y en a un peu plus de 50 maintenant.
50,
j'essayais de vous faire réagir, ça marche très bien.
On va de partout hein, maintenant.
Chose amusante, il fut un temps où la ville en France où il y avait le plus de revendeurs bullets était Lyon.
Maintenant, je me demande si c'est pas Orléans, ça devient un commun Orléans.
Non, je suis sur le Paris. Site. C'est Lyon et Paris sont à égalité avec 3 revendeurs bullets.
Waouh!
Bon.
T'as le choix de ton revendeur.
Est-ce que vous voulez que je vous parle de Cycle Europe ou est-ce que je vous le fais une autre fois?
Si c'est prêt, parle-nous de Cycle Europe.
Alors, qu'est-ce que Cycle Europe? Ben, c'est assez intéressant.
Ah,
alors donc oui. Là, ce dont je vous ai parlé, ce sont des firmes qui sont indépendantes. Mais il y a des firmes qui sont. À dimension totalement inhumaine, et c'est le cas de Cycle Europe. Par contre, pourquoi mon chariot ne bouge pas? Bouge, voilà, non, j'ai rien d'autre là. Alors, qu'est-ce que Cycle Europe? Cycle Europe, c'est Beistigui Hermanos, qui est une firme de cycle espagnole, qu'on appelle BH,
Oui, BH, donc les frères.
Pardon, excuse-moi. Oui, donc,
les frères Beistigui.
Les frères Beistigui qui ont créé la firme BH, qu'on connaît en route sous le terme BH. Ils se sont associés.
Non, vas-y, ils font pas du VTT aussi, moi.
Ils font du VTT, oui, aussi. Oui. Enfin, je veux dire, en vélo de sport, si tu veux.
Oui.
Ils se sont associés à Peugeot et à Gitane en 92, pour essayer de contrer l'arrivée massive des revendeurs asiatiques. Et du coup, ils ont créé Cycle Europe. Et Cycle Europe a produit donc les vélos Peugeot, les vélos Gitane et a produit plein d'autres choses. Ils se sont fait racheter par un conglomérat suédois en 97. Et à cette époque-là, ils ont racheté Bianchi, donc qui est une firme milanaise, italienne, qui était fondée en 85. Et c'est dramatique de voir Bianchi finir sous la tutelle de Cycle Europe quand on sait que c'est la première firme qui a créé un vélo avec une transmission à cardan. Et tu sais de quelle année date cette transmission à cardan? En 1911. Voilà. En fait, j'ai Mogor qui est en train de boire, donc du coup, elle est...
Oui, tu m'excuseras, j'ai un peu du mal à parler dans le micro en même temps que je bois. Enfin, en tout cas, je ne tente pas l'expérience.
Ça donc voilà.
Trop technique.
Donc ça, c'est la firme Bianchi. Donc dans Cycle Europe, on croise évidemment, comme je l'ai dit, Gitane, qui est l'un des fondateurs, qui est une firme française, qui elle a été fondée en 1929, elle aussi, tu vois, dans les années 20, à Machecoul, en Loire-Atlantique. Et aujourd'hui, c'est Gitane qui fabrique toutes les marques de grandes surfaces alimentaires. Micmo, TVT, EXS, Nakamura, etc. Pardon.
On le perd.
Ouais. Donc voilà, c'est là aussi une espèce de grand conglomérat dans ce grand conglomérat. À noter que Gitane fabrique aussi les vélos de La Poste, sous leur propre marque.
Voilà. Oui, je me demande si je ne l'avais pas évoqué lors d'un précédent numéro. En tout cas, j'avais fait des recherches sur les vélos de La Poste à un moment.
Et c'est des Gitanes, je te le confirme. Donc, ne rêvons pas, les Micmo, les TVT, les EXS, les Nakamura, les Gitanes et les Raleigh. Et oui, Raleigh est fabriqué aussi par Gitane. Tout ça, c'est soudé en Chine et pas à Taïwan. Je parle en Chine continentale. Les usines qui fabriquent à la chaîne des trucs complètement impersonnels. Ça fait mal à entendre, mais c'est le cas. Voilà.
En même temps, tu peux aussi te payer un vélo chez un cadreur français. Ça existe. C'est pas le même budget.
Oui, tout à fait, c'est pas le même budget. Non, mais je soupire parce que j'aimais bien les Raleigh. Mais le fait de le savoir, ça casse un peu le mythe. C'est pour ça que je suis un peu tristé. Voilà, donc qu'est-ce qu'on trouve encore chez Cycle Europe ? On va trouver Puch. Enfin, Puch. P-U-C-H.
Mm-hmm. Puch.
Puch, voilà.
Je sais pas comment je... Ouais.
Puch.
Puch.
Si vous savez comment ça se prononce, laissez un message sur notre répondeur sur le site cyclocast.fr.
Voilà. Donc la marque Puch, je vais dire Puch. La marque Puch, qui à la base est une marque de vélo et de moto autrichienne, qui a été fondée en 1889.
Oui, si c'est la marque, c'est Puch.
Ah, donc c'est Puch. Donc, elle a été fondée en 1889 quand même.
Ce serait pour, enfin bref.
C'est une très très vieille marque. J'ai pas trouvé grand chose concernant les cycles, juste que à un moment ils étaient indépendants et puis à un autre moment, ils se sont retrouvés chez Cycle Europe. Aujourd'hui, vous allez sur le site Cycle Europe, vous avez
Pif paf
pouch.
Pif paf pouch.
Cycle Europe a racheté la filière Cycle Pure. La filière moto scooter a été rachetée par Piaggio. Allez, je vais en parler. Donc Raleigh. Raleigh, donc c'est Cycle Europe aussi. C'est même exactement sous la tutelle de Gitane. Et c'est dommage parce que c'était une marque, c'est une marque très très ancienne, très très reconnue. L'Hydre vous a parlé de son vieux Raleigh qu'il aime beaucoup. C'est une marque qui a été fondée en 1887. Une marque anglaise qui a eu qui a connu une gloire illustre. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est Cycle Europe là aussi.
Voilà. Je me souviens que j'étais jaloux d'un copain qui avait un Bicross, comme on appelait ça à l'époque, Raleigh, qui était super.
Ce qui était en fait qu'à l'époque déjà de vulgaire BMX, mais...
C'était un BMX, c'est...
Voilà, oui, mais on a aujourd'hui Bicross, oui.
Aujourd'hui on dit un BMX, quand j'étais jeune on disait un Bicross.
Ah oui, là tu révèles ton âge canonique.
Pas si canonique que ça, puisque moi aussi on appelle ça des Bicross, ça va.
Moi je me souviens pas comment on appelait ça.
C'est pas très grave.
Enfin voilà. Donc c'était Raleigh. Donc rien d'autre de plus à dire. Voilà, sniff. Et là je vais vous étonner.
Ah bon ?
Ouais. Sous la tutelle Cycle Europe, il y a une autre marque qui s'est regroupée avec eux. C'est Daon. Daon a été fondé aux USA à Duarte. En Californie, quand je vous dis qu'il y a plein de firmes de vélos en Californie, en 1982, c'est le fameux docteur On, David On, Daon.
Ah,
voilà.
Non, je sentais que tu essayais de nous faire faire un jeu de mots ou quelque chose.
Oui, la marque, c'est un jeu de mots. Une contraction du prénom et du nom de ce monsieur, David On, qui donc a voulu fabriquer des vélos pliants dans une optique écologique et de développement durable déjà à l'époque, en 82. Je le dis, mon année de naissance. À cette époque-là, ce gars-là, il a songé, quoi. Et directement, il avait compris que pour être compétitif, il fallait délocaliser, il fallait faire fabriquer ailleurs, et il a fait fabriquer à Taïwan. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, certains modèles européens actuels sont fabriqués en Bulgarie. Mais le reste vient de Shenzhen, sauf la production pour la Chine elle-même, la Chine intérieure, qui est produite dans la région de Pékin. Voilà, et c'est ce que je disais, je ne savais plus quelle marque j'avais travaillé qui était parfaitement claire, et c'est Daon, sur leur site, sur le wiki, pas de honte, ils l'ont clairement avoué, ils ont dit on fabrique à tel endroit, pam, ils ont lancé direct. Voilà, et donc Daon fait partie de Cycle Europe. Allez savoir pourquoi, je sais pas. Est-ce qu'il y a eu un rachat de parts de marché, de parts de société ? Bon, c'est rattaché. Peugeot. Eh oui, Peugeot fait partie de Cycle Europe. Mais le cas est particulier là aussi. Peugeot a fondé Cycle Europe avec Gitane et BH, puis on est parti en 2004. Et là, je crois que c'est depuis 2010 que Peugeot a repris la fabrication et l'assemblage elle-même de ses vélos, mais continue de confier la fabrication, la soudure des cadres à Cycle Europe.
D'accord, donc ils y sont sans y être.
Voilà.
Et ils sous-traitent, ils profitent de...
En fait, Cycle Europe, c'est un peu le giant français. européen.
Enfin bon, quand on voit ce que produit Peugeot aujourd'hui, on se dit qu'ils continuent à faire des vélos parce que historiquement ils en ont fait et que voilà. Ils avaient partie de leur histoire, mais c'est un peu tout quoi. Et
sachant qu'il n'y a maintenant même plus de magasins de cycles Peugeot, les vélos Peugeot sont vendus en concession automobile.
Oui, c'est vrai que. Voilà. Oui, donc c'est de l'accessoire de voiture comme Mercedes et toutes les grandes marques qui proposent leurs vélos qui sont complètement inutiles. Mm-hmm. Mais bon.
Et alors pour Peugeot, il faut quand même qu'on parle un petit peu de la firme avant qu'elle ait été phagocytée par Cycle Europe. Peugeot, c'est une firme qui est née à Montbéliard en France.
Côté de chez nous.
Effectivement, c'est pas très loin. C'est dans le Doubs.
Et qui est toujours à Montbéliard.
Qui s'est délocalisé à Mandeur, toujours dans le Doubs, à côté de Montbéliard. Et depuis, je t'arrête, enfin du moins pour la fabrication des vélos, enfin pour l'assemblage des vélos, puisque la soudure se fait toujours en Chine ou à Taïwan, l'assemblage des vélos se fait à Romilly-sur-Seine dans l'Aube. L'usine de cycle Peugeot est là-bas. Petite anecdote, Peugeot c'est l'une des premières firmes, une des premières entreprises à fabriquer, il faut que j'arrête de dire firme, j'ai pas arrêté de dire firme sur tout le dossier, c'est l'une des premières entreprises à avoir importé un modèle de vélo particulier qui est le Granby. En fait, Peugeot a vendu en 1882 ce qu'ils appelaient le Granby français. Voilà.
D'accord.
Et bah, j'ai fait un peu le tour de Cycle Europe, voilà. Comme quoi vous voyez qu'on peut rencontrer des monstres assez hideux qui vont aller piller des marques et badger des vélos dégueulasses, voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour ce dossier.
Merci.
Je vous parlerai d'autres monstres un de ces jours, vous verrez.
Oui, je pense qu'il y a encore matière à enrichir le sujet.
Tout à fait.
Je pense qu'on va passer au dossier de Mogor.
Tout à fait. Bicycle.
Ce soir, je vais vous parler de moustaches. Non, pas du tout.
Encore ?
Je me trompe. J'ai donc...
Cuir moustache !
Voilà, je porte donc une moustache factice, dois-je le préciser. Et c'est assez... J'ai des poils qui me rentrent dans le nez, voilà.
Ben voilà, tu comprends notre quotidien maintenant. Tu comprends pourquoi on se caresse souvent le nez, qu'on se frotte le nez ?
Je comprends pas pourquoi vous laissez pousser la moustache du coup, mais bon.
Parce que c'est beau.
Masochisme. Donc, si je ne vais pas parler de moustache, je vais parler en revanche de cuir. Je vais parler du cuir de la selle. Pourquoi, peut-être que je vais commencer par demander, est-ce que vous avez une selle en cuir, vous ?
Je n'ai que des selles en cuir sur mes vélos. Le Giant et le Surly ont tous les deux une Brooks.
J'ai des selles en cuir et des selles en plastique.
Moi, j'ai également des selles en cuir, mais pas que des Brooks.
Je m'assure, je ne suis pas riche. Je suis malin et j'ai profité de promo.
Je ne t'insultais pas, hein. C'était pour dire que bon...
Mes selles en cuir ne sont que d'occasion, et j'ai aussi une selle idéale, qui est très belle et très confortable.
Voilà, bah écoutez, si on en est à citer les marques...
Et très vintage, assortie à mon motobécane.
Moi j'ai une selle, alors je ne me souviens plus de la marque, c'est Bertin, je crois. Bertet ou Bertin ?
Non, t'as une Bertou ?
Non, c'est pas une Bertou, justement. J'ai la selle de mon grand-père, j'ai également une Brooks, à tout seigneur, tout honneur... Et j'ai une JS qui est une selle en cuir mais avec une coque plastique par-dessous qui est très bien, qui est ma selle de randonnée, dont je suis extrêmement satisfaite. Donc si vous possédez des chaussures en cuir, quel est le rapport ? Bah, vous voyez un petit peu l'entretien que ça demande, enfin si vous les entretenez correctement. Donc quelles sont les problématiques des chaussures en cuir ? C'est qu'au début, les premières fois que vous les mettez, tout comme la selle en cuir, le cuir est...
raide.
Est raide, en tout cas n'est pas à la forme. Par contre, plus vous... mettez vos chaussures, plus elles vont s'adapter à la forme de votre pied et de votre pas et de votre marche. Et c'est pareil pour les selles.
Presque, parce que des bonnes chaussures ne te feront pas mal aux pieds.
Quoi ? Alors que... Comment ça ? Alors qu'une bonne selle peut te faire mal aux fesses ?
Alors que même une bonne selle te fera toujours mal au cul, oui.
Oh là là, je vois qu'on est dans la poésie ce soir.
Oui, complètement.
Alors, première chose, si vous venez d'acheter votre selle en cuir, quelle qu'en soit la marque... Ce qu'on vous a sûrement dit avant l'achat, enfin j'espère pour vous qu'on vous l'a dit, c'est qu'il y aura forcément un rodage. Le rodage, c'est cette période où la selle, où le cuir s'adapte à votre conduite, à votre postérieur, et donc la selle prend la forme...
Des ischions.
J'allais être un peu moins poétique, mais bon, la selle
du
prend,
boule,
la... prend la forme...
du cul.
Prend la forme de vos fesses et dans la position la plus agréable pour vous. On se calme un petit peu, je sais qu'il est tard, mais... Faites ce que vous voulez entre vous. C'est pas parce que je fais cuir moustache que tout de suite.
Ah, désolé, ça nous a inspiré.
La seule vraie question à laquelle j'ai pas de réponse, c'est combien de temps ou de kilomètres de roulage est censé durer le rodage. Parce que je trouve des chiffres du genre 500 km, bon. Oh, au moins 1000, voire 1500, bon, d'accord. Personnellement, quand j'ai annoncé, oh, j'ai une selle en cuir, etc., les gens m'ont dit, oh, bah, tu vas voir, au bout de 300 km, ça sera rodé, ça sera vraiment super confortable. Non, non, au bout de 300 km, j'avais encore mal aux fesses, comme si j'avais des bleus.
En fait, là où tu te rends compte qu'elle est devenue confortable, c'est quand tu en remets une autre à la place. Et une que tu considérais comme à peu près confortable.
C'est comme les coups de marteau sur les doigts, c'est quand tu te mets un coup de marteau avec un marteau plus gros que tu te rends compte que ça fait mal.
Non. Alors non, les selles en cuir, je bégaye. Les selles en cuir ne sont pas pour les masochistes, hein, je vous rassure tout de suite.
Oui, non, on rigole.
Par
hein,
contre,
bien sûr.
Il est vrai qu'il y a cette histoire de rodage, et il est vrai que les durées qu'on peut trouver, j'ai fait des recherches sur internet et je me réfère à ce qu'on m'avait dit à moi, sont quand même hyper variables. Les gens qui me disent 300 km, c'est un peu optimiste.
C'est un peu comme, tu sais, l'histoire de combien de temps faut-il pour refroidir le fût d'un canon. Un certain temps.
Non, je suis pas au courant. Mais d'accord. Et bien sûr.
En fait,
non, mais alors...
tout va dépendre de ta façon de rouler.
Ça te dérange pas de faire un dossier à ma place ?
Non, non, pas du tout.
Ah d'accord, vas-y, je t'en prie.
Et du poids du cycliste.
C'est là où j'allais venir à ça. Effectivement, donc les paramètres, comme mon camarade Grincheux l'a bien énoncé, un des paramètres va être par exemple le poids du cycliste et le temps que vous passez dessus, parce que si vous passez la journée, du coup la selle est... vous chauffez le cuir et donc il s'assouplit d'autant plus.
Il y avait aussi une question de finesse du cuir, parce que bon, pour parler simple, en Brooks j'ai une B17 et une Pro, et le cuir de la Pro est vachement plus fin et il s'est formé vachement plus vite.
Tout à fait. Et en plus, Brooks, bon, puisqu'on parle de cette marque, propose des selles pré-rodées, donc qui sont déjà pré-assouplies, pré-formées plus ou moins, en se disant, tiens, ça va être pour un homme, une femme, etc. Alors, ce qu'il y a à savoir...
Sinon, pour la question de... Ah, mais ça fait 500 km que je roule avec ma selle en cuir et j'ai toujours mal. Alors, moi, je me souviens que quand j'ai acheté ma Brooks pour le Bullitt, je trouvais que la selle d'origine du Bullitt était relativement confortable. Et je le trouve toujours, malgré son aspect assez spartiate, elle est très, très confortable.
Pour un homme, je précise, parce qu'elle est quand même bien étroite.
Et quand j'ai acheté ma Brooks, j'ai installé ma Brooks et puis je me suis dit, ouais, bon, on fait tout un flanc de ces selles en cuir, etc. Maintenant, je vois pas trop la différence de confort par rapport à ma selle d'origine. Et puis, malencontreusement, j'ai déchiré le cuir de ma selle. Donc, je suis revenu à ma selle d'origine du Bullitt. Et là, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'elle est inconfortable. Et donc, qu'est-ce que c'est ma selle en cuir? C'était bien faite à mon fessier.
J'étais présent quand tu es monté sur cette selle après que ta Brooks
s'il vous
soit
plaît,
pétée.
Calmez-vous.
Et effectivement, t'as souffert. Ouais. J'ai vu ta tête.
Alors aujourd'hui, ça fait quelques semaines que je...
Aujourd'hui, j'ai du cal aux fesses, tout va bien.
Non, j'ai repris l'habitude d'être sur cette selle. Et non, elle n'est pas si désagréable que ça non plus.
Mais elle n'est pas aussi bien formée à l'extérieur et elle ne bougera pas.
Et je sais que même si les premiers temps, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas tellement de différence de passer d'une selle sur laquelle on est bien à une selle en cuir qui nous correspond aussi, parce qu'il y a des selles en cuir qui ne nous correspondent pas.
Oui, je confirme.
Mais tu vas peut-être en parler.
Non.
Moi, j'ai eu la chance de trouver une selle en cuir qui me correspondait, mais la selle en cuir va correspondre en fonction du type de vélo aussi, parce que selon la position, on va avoir des appuis qui vont être différents, des attentes de confort différents, parce que on va pas prendre une grosse selle à ressort très large qui
Quoi
va correspondre
si c'est ma selle
qui va correspondre à un vélo plutôt de ville, ou en tout cas qui incite à avoir une position
c'est
droite.
C'est ma selle de rando. Qu'est-ce qu'il raconte?
Pour avoir un vélo sur lequel on va être très en avant et avec une façon de conduire plus engagée. Ton vélo de rando a été on a modifié la géométrie pour que tu sois assez droite dessus.
Donc, un peu plus droite qu'un vélo de course, mais bon.
Oui.
Bref.
Oui, enfin, moi, la position que j'ai sur le Bullitt est beaucoup plus sur les bras que sur mon vélo hollandais, où sur le vélo hollandais, j'ai une B67 avec des gros ressorts et je ne mettrai pas cette selle-là sur le Bullitt.
Donc, quand vous avez acheté votre selle en cuir, sachez-le, il y a du rodage. Le rodage dépend de plein de paramètres. Si vous êtes lourd, que vous roulez longtemps, que votre cuir est souple ou fin, ça sera plus rapide. Vous pouvez aussi la graisser régulièrement, ça aidera. Je vais en reparler juste après, mais juste avant, vous venez d'acheter votre selle en cuir, vous êtes content, le look de votre vélo vous plaît énormément, une petite touche vintage. N'oubliez pas que le cuir craint l'humidité et la pluie, et que quand vous garez votre vélo à l'extérieur, ou même dans votre garage s'il est très humide, d'utiliser quelque chose pour recouvrir la selle. Donc la solution du pauvre, c'est le sac plastique, et puis la solution un peu plus élaborée, c'est les couvre-selles spéciaux.
Si vous avez acheté une Brooks, vous avez un couvre-selle, une Brooks neuve, normalement il y a un couvre-selle fourni avec.
Non.
Non ?
Du tout.
Il me semblait. Moi je n'ai acheté les mille que d'occasion, donc je ne...
C'est un...
Il n'y a que le journal qui est fourni avec la selle, c'est ça ?
Oui, c'est ça, le Brooks Buggle, oui, tout à fait.
C'est une légende, en fait.
Non, t'inquiète pas, tu dois raquer aussi pour la housse, il n'y a pas de problème.
Oui, moi, j'ai une housse qui vaut 2 francs 6 sous et de 2 anciens francs.
Ouais, moi j'ai un sac plastique Super U, pas très bien.
Moi j'avoue, j'utilise la technique du sac plastique, tout simplement.
Une housse qui m'a été offerte par mon cycle, mais au mauvais vélociste.
Moi j'utilise la technique du sac plastique parce que j'avoue que je suis un petit peu paranoïaque et du coup je me dis comme ça mon vélo a l'air tout pouilleux avec son pauvre sac plastique. Mais bon, moi-même quand je vois un vélo avec un sac plastique, je me dis « Ah, il a une selle en cuir !» Et quand on voit la forme de certains rivets, on se dit « Ah, il a une Brooks !» C'est quand on sait le prix que ça coûte. Finalement, le mieux reste de bien attacher sa selle, mais j'en ai déjà parlé avant. Donc n'oubliez pas que votre selle craint, enfin que le cuir craint est sensible à la pluie, à l'humidité. Et il faut, donc, dans l'idéal, graisser une à deux fois par an. Donc ça veut dire que c'est quand même un entretien que tout le monde peut faire. C'est pas le truc de, comment dirais-je, de très motivé ou très passionné.
C'est-à-dire, on fête les équinoxes ou les solstices, et puis ça nous fait d'être père.
Là, on voit le bobo baba cool bio cycliste qui se révèle au fond de toi. Donc bref, donc vous pouvez graisser... Plutôt, il faudrait que vous graissiez votre selle une à deux fois par an pour qu'elle conserve sa souplesse, en fait.
Ça permet également de la rendre imperméable au cas où elle se prendrait de la flotte.
Ça permet de l'imperméabiliser un peu plus. Pensez aussi, alors c'est peut-être un détail pour vous, mais qu'une selle en cuir est...
Mais pour toi, ça veut dire beaucoup.
Pour moi, ça veut dire beaucoup parce que j'ai effectivement des rayures sur ma selle, par exemple avec les rivets de jean.
Oui.
Mais que donc le cuir, ça peut se rayer, et parfois un peu irrémédiablement. Donc du coup...
C'est toujours irrémédiable. Et ça fait mal au cœur.
Du coup, pensez à ça, si vous voulez conserver un aspect
Mais
nickel.
Par contre, pensez également à ne pas trop graisser...
Alors attends, j'y viens.
Ah bon.
La graisse, ça salit un petit peu, effectivement. Donc, ne pas trop graisser. Mais ce qui existe aussi, c'est des vernis fixateurs spécial cuir. Et ouais, on en trouve dans les magasins de canapés ou dans les trucs pour les voitures, pour les sièges cuir. Mmh. Donc, c'est un vernis perméable, ça permet de laisser respirer le cuir, mais le gras ne ressort plus. Je ne sais pas si c'est très clair. L'air passe, mais pas le gras de votre graissage.
Ouais.
Donc, à tester. Écoutez, j'ai trouvé cette astuce sur Tonton Vélo, forum bien connu de vélo. Donc, why not ?
C'est comme les cuissards un peu hauts, quoi, en fait. Ça évite que le gras dépasse. Pardon, excusez-moi. Elle est sortie toute seule.
Très bien. Tu vas nous faire un petit dossier cuissard la prochaine fois ou pas?
Bien, bien, meuf.
Cuissard en cuir ou peau de chamois? Ça m'intéresse.
Pardon, donc, je t'interromps
plus. Donc, j'ai dit le principal, hein, rodage, protégé de la pluie, graissage deux fois par an, donc faisable par tout être humain qui a une vie en dehors du vélo.
Et dis-moi, comment on graisse une selle?
Comment ça, comment on graisse une selle? Avec de la graisse. Alors, il y a la graisse, puisqu'on parlait de Brooks. Brooks vend une crème dont le nom est Profeed, ou Profeed. On a eu un débat dessus j'ai tout à l'heure. Comment on prononce? Là aussi, laissez-nous un message pour la bonne prononciation, s'il vous plaît.
J'ai toujours cru qu'en fait, c'était Profeed. C'est pour ça.
Oui, ça avait du sens, mais non, non.
Mais non, c'est Profeed, ouais, ou Profeed.
Et donc, le principe, c'est qu'on graisse sous la selle, là où le cuir peut... Comment dirais-je? Côté chair, parce que le cuir c'est de la peau de vache. Hein. Donc là où il y avait la chair avant et là où le cuir peut absorber la graisse. Vous pouvez essayer de graisser par-dessus, mais là la problématique c'est qu'il va falloir que ça pénètre bien, donc il faut attendre, vous risquez d'en avoir sur les vêtements, etc. Donc moi le conseil c'est quand même graisser en dessous. Si vous récupérez une très très vieille selle, les amateurs de vieux machins tels que je le suis, et là je regarde grincheux.
C'est sympa pour grincheux. Tu sais ce que c'est le vieux machin là?
J'ai dit que j'étais amatrice, donc du coup...
Amatrice en plus.
Donc sur les forums, l'astuce était d'essayer d'assouplir un peu le cuir avant de le nourrir c'est-à-dire de le refaire un peu vivre. Donc ça nécessite de la chaleur, mais pas trop, parce que sinon le cuir, il est bouillu, donc c'est pas bon. Donc certains utilisent de l'eau chaude, mais pareil, pas trop d'eau, parce que le cuir et l'eau sont pas copains. Donc je vous laisserai faire votre recherche
De l'huile chaude.
Internet vous-même, pour savoir comment essayer de redonner vie à un ancien cuir, en fait. C'est comme si vous trouvez d'anciennes bottes en cuir ou ce genre de choses, c'est quand même...
J'avais essayé de redonner vie à ma selle, mais le problème, c'est qu'il manquait des morceaux surtout.
Alors oui, quand le cuir est vraiment trop craquelé ou qu'il manque des morceaux de cuir, c'est plus possible.
Elle a tenu quelques temps.
J'ai testé cette selle, effectivement. À un moment, je me demandais pourquoi...
Elle était confortable.
Elle était très confortable, mais à un moment, j'avais une petite sensation bizarre le matin au niveau de la fesse droite. Et en fait, c'est parce qu'au lieu d'être sur le cuir, j'étais sur l'armature en fer. Sur le métal, donc forcément en fait j'avais froid à un endroit précis. J'ai vraiment dit le principal parce que c'est pas très complexe. Si vous achetez, on trouve facilement des conseils et des gens qui vous répondent sur les forums. On trouve facilement des conseils sur le net. Et si vous achetez une Brooks, la plupart du temps vous avez presque le mode d'emploi avec. Donc finalement,
si un dernier point de détail,
La
tension.
Pas parlé de la tension, et ça, je devrais en parler tout simplement, donc, parce que j'ai découvert ça à mes dépens. Donc, il y a des vis pour tendre le cuir. Alors, si vous avez une surtension, par contre, ça peut vraiment endommager le cuir, donc faites attention. La bonne tension s'obtient en resserrant un petit peu à chaque fois.
C'est 12,5, c'est ça ? 12,7 ?
C'est ça.
On fait comment pour mettre le tensiomètre à rayon ?
Non, c'est pas un rayon, là, c'est au niveau des fesses.
Il n'y a pas pour attraper l'autre.
Tu peux le mettre sur la selle.
Des conneries, les mecs.
Non, mais du coup, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que j'avais oublié de bien retendre ma selle, etc. Et ça s'est tellement détendu qu'avec les vibrations, j'ai perdu un écrou de selle. Donc la selle n'était plus fixée que par un des côtés. Enfin, j'aurais pu tout simplement... je risquais la chute et même d'endommager la selle elle-même et le chariot de selle, puisque je tordais à chaque fois un petit peu. Donc, n'hésitez pas à serrer pour tendre votre cuir, un peu tel une peau de tambour. Puisque avec les vibrations, la vie du vélo et puis aussi votre fessier dessus et le poids dessus, ça se détend.
Alors, dernier détail, si vous avez acheté une Brooks, comme son nom l'indique, est d'origine...
Norvégienne.
Non, bon. On recommence. Brooks, comme son nom l'indique, est d'origine...
Taïwanaise. Allemande.
Bon, anglais.
Ah, on joue pas avec toi, là, t'as vu.
Et nos amis, les Britanniques, ont la mauvaise habitude d'utiliser des mesures...
En pouce
impérial, en de fraction de pouce impossible à comprendre.
Et on se calme sur le vocabulaire.
Et par conséquent, la clé qui sert à retendre la...
Et fournie avec la selle, ne la perdez pas, parce que
c'est
pas une mesure
en pouce, et c'est pas une mesure métrique. Et donc, si vous utilisez une clé classique partout dans le monde, sauf en Angleterre et aux États-Unis, vous n'aurez jamais une clé qui sera correctement ajustée, et donc vous allez user et abîmer votre écrou, et au risque de ne plus pouvoir régler votre selle.
Alors le truc que je vous donne, c'est que si vous connaissez quelqu'un qui a plusieurs Brooks, demandez-lui, il doit en avoir 3 ou 4, il vous en passera une. Moi j'ai 2 selles, j'ai 3 clés, donc...
Tout à fait, c'est une solution, mais c'est une clé qu'il faut garder précieusement et pas la regarder négligemment. Oh, c'est quoi ce bout de métal embouti tout pourri, j'ai mon jeu de clé.
Oui, la clé ne ressemble pas à grand chose. Enfin, elle est pas.
Voilà.
Voilà, elle a l'air d'un petit bout de métal fourni attaché au carton.
C'était le dernier conseil de Tonton Grincheux.
Et la dernière astuce, moi, qui va me servir directement prochainement, donnée par Amsterdamer, qui est si votre selle queen, j'ai ce cas, de mettre de la graisse entre les parties métalliques à l'avant de la selle et entre le cuir et les parties métalliques, en fait. Parce que ma selle queen, ce qui est assez irritant. Vélo silencieux, pas trop. Donc voilà, en récapitulatif, c'est très simple. Vous aurez votre selle à roder, graissez-la en premier, ça facilitera le rodage. Ça craint la pluie, graissez-la aussi parce que ça la rend un petit peu imperméable. Finalement, graisser sa selle, c'est la solution à tous les problèmes de selle en cuir.
Et ne pas trop la graisser non plus.
Je dois refaire depuis le début ou c'est bon ?
Non, ça va aller, ouais. on peut remettre en arrière et réécouter.
Exactement, tu feras un petit replay toi-même. Donc, je vais vous proposer un dossier sur les selles en cuir aujourd'hui. Non, je plaisante. Donc, voilà.
Je crois que nous...
On arrive à la fin du podcast.
On arrive à la fin de ce podcast, de ce 10e podcast. Et je crois qu'il faut aussi que l'on remercie G-Code qui nous a laissé un commentaire sur iTunes.
Et 5 étoiles surtout, je crois.
Et 5 étoiles.
Ouais. Ah, merci, G-Code.
C'est sympa, Aude, merci.
T'assures bien.
Voilà, donc vous aussi, vous pouvez nous retrouver sur iTunes et nous laisser des commentaires.
Et surtout 5 étoiles.
Surtout 5 étoiles.
Oui, chacal, quoi, les
mecs. Liberté d'expression. Vas-y.
C'est la 5 étoiles. On va pas encore faire comme certains autres crevards qui se foutent du contenu des commentaires et qui veulent juste les étoiles. Laissez-nous quand même des commentaires sympas. Ouais. Enfin,
en tout cas, on les lit. On les lit.
Tout à fait.
Et on les apprécie. Et voilà, des commentaires sympas sont toujours intéressants pour développer le podcast puisque...
On va tenir compte de vos avis et puis on va essayer d'améliorer encore la chose. Donc allez-y, lâchez des coms, quoi.
Bah, surtout, ce qu'il faudrait rappeler, c'est qu'on est trouvable sur cyclocast.fr.
J'allais le faire.
Ah, pardon.
Donc, bien entendu, vous pouvez nous retrouver soit sur notre site web, cyclocast.fr, où vous allez retrouver les billets de tous les podcasts, soit sur iTunes. Vous cherchez Cyclocast sur iTunes. Sinon, vous allez nous trouver sur Twitter, @cyclocast, sur Facebook... Facebook/cyclocast, je crois. Enfin,
vous cherchez cyclocast, voilà. Vous trouverez.
Et vous allez nous trouver.
Et individuellement, vous pouvez nous retrouver sur Twitter.
Donc
Mogor, Mogore.
Voilà, @mogor.
@proculus, @procidusalus.
Et @grincheux pour moi.
Ou @cyclocast aussi.
Ou @cyclocast.
Pour contacter toute l'équipe.
Et pour contacter toute l'équipe, vous pouvez sur notre site nous laisser une petite bafouille sur le répondeur.
Il suffit d'avoir un micro et ça marche sur téléphone portable.
On a testé pour vous.
Voilà, on a également les adresses mail.
Ils vont être submergés là, ils n'en peuvent plus.
Bah oui.
Ils ne sauront plus où nous joindre.
Mais bon, donc voilà. Moi, si vous voulez me laisser concernant les dossiers marques, le mois prochain, visiblement, je ne m'occuperai pas de vous faire une grande firme. Faire un grand dossier comme ce soir, mais si vous voulez me laisser des propositions de marques pour connaître un petit peu l'historique, etc., n'hésitez pas. Et
leur prononciation.
Et leur prononciation. Voilà.
Ok, ben.
Au revoir.
Merci.
Bonne soirée à tous.
Et à bientôt.
À la prochaine.
Et au prochain podcast. Salut.
Salut. It's hard to miss the ruling.